Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Berry.
Halou Dmoni.
Chenni Berry. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Vous suivez les programmes de Studio Tamani sur 85 radios, 3 télévisions et en live sur Facebook. Ce soir, nous allons parler de traite des personnes qui fait des millions de victimes chaque année dans le monde. Plus de 24 millions de nouveaux cas avaient été reportés à l'échelle mondiale en 2016 selon l'ONU. L'Organisation des Nations Unies estime que c'est un crime qui n'a pas sa place au 21e siècle. Et également en 2017, une vingtaine d'affaires de traite de personnes et pratiques assimilées étaient pendantes devant les juridictions maliennes, précises l'Organisation internationale pour les migrations. Quelle est la situation donc au Mali? Où se situent les responsabilités? Quelles sont les mesures prises pour lutter contre la traite des personnes dans le pays et comment les renforcer? Pour en débattre, nous avons trois invités. Pascal Reitjens, chef de mission OIM au Mali, Boubacar Touré, président du Comité national de lutte contre la traite des personnes, et Madame Diawara Bintou Koulibaly, présidente de l'Association pour le progrès et la défense des femmes maliennes, APDF. Je suis Mouhamadou Touré, auditeur, téléspectateur et invité. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Alors, quels sont aujourd'hui, quand on parle même de traite des personnes, de quoi s'agit-il, Pascal Reitjens?
Alors, la traite des personnes, elle est définie par des textes internationaux, mais en fait, c'est un ensemble d'actes qui va du recrutement au transfert ou au transport vers l'accueil ou l'hébergement de personnes sous la contrainte, qu'elle soit physique ou psychique. Suite au mensonge et dans un but tout à fait particulier qui est l'exploitation. Donc ça, c'est la définition officielle. La même définition s'applique pour les mineurs, ceux qui ont moins de 18 ans, mais cette définition ne comprend pas la question de la contrainte. On part du principe que les autres éléments que j'ai mentionnés sont suffisants pour se dire qu'on est dans un cas de traite.
D'accord. Depuis 2016 à ce jour, l'OIM estime avoir assisté au total 610 victimes de traite, dont 51 enfants au Mali. Qu'entendez-vous, Monsieur Touré, par traite des personnes au Mali?
Justement, pour définir la traite des personnes, nous nous référons, comme monsieur le chef de mission vient de le dire, aux différents textes internationaux. Mais au Mali, à la loi 023-2012-023 du 12 juillet 2012 relative à la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées, qui reprend in extenso la définition du protocole de Palerme, notamment dans l'article 3 de ce protocole, qui est repris à l'article 1 et qui dit en substance que la traite des personnes désigne le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil des personnes à l'intérieur ou à l'extérieur d'un pays par le recours à la menace, à la force ou à la violence, l'enlèvement, la fraude, la tromperie, l'abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages, ou pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation qui comprend au minimum l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes. Et donc, l'un dans l'autre, et nous avons cette définition. Et donc, et juridiquement, pour le magistrat que je suis, il faut prendre l'action, comme par exemple l'hébergement, les moyens, par exemple la menace et la finalité de l'exploitation. Parce que l'exploitation, cette finalité, c'est pour exploiter quelqu'un. Donc un trafiquant maintient toujours la victime dans une interdépendance au fin de continuer de l'exploiter. Voilà. Mais pour ce qui concerne les mineurs, on n'a pas besoin de consentement. On n'a pas besoin de consentement pour les mineurs.
D'accord. Madame Diawara, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les différentes formes de traite de personnes qu'on rencontre, notamment au Mali?
Bon, peut-être que je vais un peu parler des cas que nous avons reçus. Parce que à l'APDF, nous recevons quand même des cas de traite, surtout concernant la prostitution forcée. et puis les tromperies, comme si je peux me permettre, parce qu'on prend des enfants, on dit on va vous trouver à travailler, et généralement c'est pas pour travailler, on les utilise autrement. On a eu beaucoup de cas comme ça, avec le transfert des enfants, dans le but de les amener à travailler. Généralement, ces enfants viennent du Nigeria, de l'Algérie, du Maroc. Elles viennent comme étant des personnes qui viennent pour travailler. Donc ça, c'est des cas. Il y a la prostitution forcée, comme je l'ai dit. Il y a le travail forcé. Il y a les enfants mineurs qui viennent, qu'ils utilisent aussi. Il y a la pédophilie qui fait partie aussi de tout ce qu'on a reçu. Les jeunes garçons qui sont utilisés autrement. Au lieu qu'on les amène pour travailler, ils sont réduits à faire la pédophilie.
Pouvez-vous nous expliquer, que voulez-vous dire par prostitution forcée?
Bon, prostitution forcée pour nous, c'est des filles qu'on amène, comme je vous ai dit. On l'amène pour dire qu'elle vient travailler. Mais au lieu qu'elles viennent travailler, quand elles arrivent sur terrain, on dit bon, on les met au niveau de l'hôtel et on dit vous êtes là pour travailler. L'argent que vous gagnez, vous nous le donnez parce qu'on a payé votre transport, on a payé votre visa ou bien quelque chose. En tout cas, ils donnent des conditions pour que la fille travaille et eux, ils empochent l'argent. Donc, y a des filles qui sont restées comme ça pendant des années et qui sont tombées même malades. Et ils ont fui et les laissé. Mais l'argent que la fille gagne pendant des années, c'est eux qui récupèrent. C'est ça la prostitution forcée.
D'accord. Vous avez parlé du cas d'autres nationalités. Est-ce qu'il y a des Maliens également qui sont victimes de ce trait?
Bien sûr. Il y a des Maliens, surtout dans les zones minières. Il y a des filles qui sont là, qui font la prostitution forcée. Parce qu'elles vont pour y travailler, pour gagner quelque chose. Mais généralement, elles sont utilisées à d'autres fins.
C'est ce qu'on appelle sur les sites d'orpaillage en Bambara Furukuruni.
C'est ça.
D'accord. Pascal Reichens, est-ce que vous avez d'autres formes en tête qui n'ont pas été citées par Mme Diawara
de... Écoutez, une des formes qui a été citée est entre guillemets malheureusement une des formes les plus communes, donc les questions d'exploitation sexuelle qui s'adressent principalement aux jeunes filles et aux mineurs d'âge. Dans nos chiffres, on se rend compte que l'exploitation sexuelle et les questions de traite touchent à 79%. Des jeunes filles ou des jeunes femmes. Par contre, il existe effectivement d'autres sortes de traite, donc entre autres l'exploitation économique, ça a été mentionné auparavant, entre autres lié à la servitude domestique, entre autres. On a mentionné les sites d'orpaillage. Alors, moi, je tiens à préciser aussi que les questions de traite sont aussi des questions qui sont liées aux conditions de travail et qu'on se retrouve quelquefois dans des phénomènes où les personnes acceptent un certain type de travail et puis glissent petit à petit vers l'exploitation. C'est assez insidieux comme phénomène. Et si on prend entre autres les sites d'orpaillage aussi, il y a effectivement autour de ces sites les questions d'exploitation sexuelle, mais au sein de ces sites, il y a aussi des gens qui sont dans des conditions d'exploitation économique. Ils sont obligés à travailler 16 heures par jour sans recevoir un salaire décent. Donc les éléments sont là également pour dire que la traite, elle est très vaste en fait. Vous avez mentionné certains chiffres. On n'a pas de chiffres exacts puisqu'on est quand même sur des questions qui sont par nature des questions criminelles, des questions de marché parallèle. Mais par contre, ça, je pense que c'est vraiment... Moi, j'aimerais déjà donner ce message ici. Je crois qu'il est important de dire que la traite, elle est présente, elle est partout. Et on ne donnera jamais assez d'informations, surtout aux jeunes gens, pour, quelque part, ils puissent prendre tous les renseignements qui sont nécessaires quand on leur fait des promesses qui semblent trop belles.
Elle est présente, elle est partout, mais avez-vous une idée des zones les plus concernées au Mali, des zones où ce phénomène est plus fréquent?
Alors, on a fait certaines études. Après, on se base évidemment sur la qualité des travailleurs de première ligne, comme Madame Diawara. On entame une étude maintenant début août, en fait, d'une période de 6 mois, qui doit pouvoir nous permettre de faire une meilleure cartographie. Dans notre pratique, on se rend compte qu'il y a les sites d'orpaillage et puis les grands centres urbains, dont Bamako. Voilà, mais après on a besoin d'aller plus loin dans l'analyse. et aussi de pouvoir remonter ces informations auprès de qui de droit. Je pense que c'est important aussi. Une chose, c'est d'avoir l'information. La deuxième chose, c'est qu'est-ce que vous allez faire avec l'information. Et là, j'aimerais mentionner les quatre types d'interventions qu'on peut mettre en place quand on est face au phénomène de la traite. La première chose, c'est la prévention. C'est ce qu'on est occupé à faire ici, j'espère, qu'on sera écouté par les plus jeunes sur les dangers des fausses promesses. Donc la prévention. La deuxième chose, c'est la protection. Donc quand on est en face de quelqu'un qui se dit victime ou qui pense être victime ou quelqu'un qui réfère, pouvoir faire en sorte de retirer ces personnes des gens qui la dominent. La troisième chose, ce sont les poursuites. Donc il est vraiment important par la suite de donner une voix à ces personnes pour qu'on puisse, que l'appareil judiciaire puisse entamer des poursuites auprès des gens qui s'adonnent à la traite, et en général ce sont des réseaux. Et le dernier point, c'est le partenariat. Je pense qu'effectivement la traite est quelque chose qui peut être intranational, mais c'est aussi un phénomène international, ça a été mentionné, hein. On a parlé de certains pays voisins, de certains pays de la région. La traite, elle est très clairement tout à fait globale, et donc le partenariat entre les autorités, entre les associations, entre les représentants des diasporas, entre les consulats, les ambassades et autres, c'est vraiment primordial si on veut vouloir avancer dans la lutte contre la traite, qui, je le rappelle, est quand même le troisième plus grand type d'activité criminelle à travers le monde en termes de finances.
D'accord. Monsieur Touré, est-ce qu'aux yeux de la société malienne, la servitude, le travail domestique est considéré comme une traite des personnes?
C'est très complexe cette question. Et au regard des textes, donc des normes internationales, forcément, la servitude domestique est assimilable à la traite. Mais pour ce qui nous concerne, au Mali, la loi 023 n'en parle pas assez. Comme la loi 023 ne parle pas, assimile même le cas des enfants talibés à une forme de traite. Mais j'ai dit, si on va avec les définitions, parce que les définitions, il y a le protocole, et le protocole aussi appelle aussi d'autres normes, notamment les conventions 138, les conventions 182 de l'OIT, 182, les pires formes de travail, malheureusement que le Mali n'a pas encore ratifié. Et donc, vu sur cet angle, on peut dire que c'est une forme de traite. Mais par rapport à la législation, et comme ce n'est pas encore intégré dans notre législation nationale, nous essayons de faire excessivement attention, parce que qui d'entre nous n'a pas de servante? Alors si on prend, et malheureusement beaucoup d'entre nous, je peux dire même là, je parle sous le contrôle certainement de Mme Diawara, qui paye certainement ses domestiques en dessous du SMIC. Et quand on est en dessous du SMIC, forcément, il y a une exploitation. Et s'il y a une exploitation, donc, mécaniquement, on tombe dans une forme de traite. Mais j'ai dit que par rapport à notre contexte, il est impossible pour nous de dire à l'état actuel de notre législation que la servitude domestique telle que ça se présente chez nous en République du Mali, l'assimiler à une forme de traite des personnes. Et à cet égard, le comité, en partenariat avec des organisations internationales, on est même dans une phase de relecture de la loi sur la traite des personnes qui doit prendre en compte ces différents aspects.
Et on va y revenir en détail. Madame Diawara, quel est votre avis sur ce sujet concernant les servantes de façon générale? Parce qu'il a demandé qui d'entre nous n'a pas de servante aujourd'hui. Alors, est-ce que la société malienne, traditionnellement, se rend compte que certaines de ces personnes-là sont victimes de traite?
Non. Nous sommes des femmes. C'est nous qui embauchons les blancs. Mais on ne peut pas parler de traite des enfants. Parce que pour nous, nous femmes en tout cas, nous croyons que l'argent que nous donnons, c'est largement suffisant. Et que ce que nous disons généralement, leur logement, leur traitement, leur habillement nous incombe. Donc si on ajoute tout ça à tout ce qu'on donne, ça peut atteindre le SMIC. Donc c'est pourquoi et on ne peut pas parler là-bas de traite des enfants ou de servitude. Mais dans la traite, là aussi, je devais souligner que l'esclavage est une forme de traite. Parce que pour moi, actuellement, avec le projet Mali Justice Project, nous sommes à Yélemani, en Euro d'Israël. Nous savons comment vivent les enfants là-bas, avec l'esclavage. Ils sont victimes de toutes sortes de violences. Et la servitude, n'en parlons pas. J'ai une cassette bien remplie des cas de violence que subissent les parents, les enfants. Actuellement, nous avons 5 petites mineures qui sont venues de Nioro, qui sont en formation en coupe et couture chez nous. Vraiment, au Mali, on a tout fait. À présent, on n'a pas eu de solution. Et toujours, ces personnes sont victimes de violence. Moi, je pense que c'est une forme de traite aussi, parce que quand on ne peut pas vivre dans une société, on n'a pas de droits, on ne vous respecte pas. Et vous devez travailler pour des gens. Vaille que vaille, vous travaillez. Si vous ne travaillez pas, c'est des coups. Donc, c'est des sortes de traites qui sont là et que nous sommes en train... Nous avons déjà le dossier avec MJP. Donc, on a reçu déjà 15 femmes qui ont été victimes de graves violations de droits. Donc, elles sont avec nous. Nous sommes en train de voir comment on peut traiter ces cas. Parce qu'on voit qu'on a toujours parlé de ça, mais au Mali, à présent, on n'a pas eu de solution par rapport à cette
action. Donc, c'est pour dire que l'ampleur de la traite des personnes vous inquiète au Mali?
Oui.
Pascal Retienne, quelle est l'ampleur de la traite des personnes en Afrique et particulièrement au Mali aujourd'hui?
Le Mali, il est caractérisé par le fait qu'il est un carrefour déjà. Il est un carrefour de mobilité, de migration. Il est un carrefour aussi entre différents types de régions. Donc, par nature, il est probablement sensible plus que d'autres endroits à ces questions de traite. On n'a pas encore évoqué la question de la différence entre le trafic et la traite. Donc, il y a beaucoup de gens, et on le sait, beaucoup de jeunes qui sont sur ce qu'on appelle les routes migratoires. Une partie d'entre eux, malheureusement, sur les routes migratoires irrégulières. En fait, le trafic, c'est quoi? C'est un accord entre quelqu'un qui va aider quelqu'un d'autre à aller d'un point A à un point B. Et le trafic se caractérise par le passage de frontières de manière irrégulière. Donc, a priori, si le contrat fonctionne, tout le monde est heureux et on avance. Le problème qu'on a, c'est que quand on s'engage sur les routes migratoires irrégulières, on risque éventuellement de ne pas avoir les moyens à un certain moment, d'accepter éventuellement pour payer la suite de son voyage, de se retrouver dans des situations et des conditions auxquelles on ne s'attendait pas. Moi, j'ai rencontré des jeunes gens, des jeunes filles qui ont expliqué leur voyage et qui racontaient les multiples moments d'abus sexuels pour pouvoir avancer ou même revenir au pays. Donc, en quelques mots, ce sont des moments terribles. Alors, vous me posez la question. Je crois que le Mali, il y a aussi un autre élément, en plus d'être un carrefour, ce sont des frontières énormes qui sont relativement poreuses aussi. Donc je crois que c'est important. Donc ça veut dire que les éléments sont là aussi pour permettre des passages frontaliers illégaux. Je rappelle cependant que dans la question de la traite, 80% des victimes de la traite sont en général rentrées légalement dans le pays où par la suite elles sont devenues victimes. victimes de la traite. Je crois que c'est important. Les 20% restants, ben, c'est en grande partie les personnes qui se retrouvent en situation d'exploitation sexuelle et les enfants, parce qu'il y a vraiment des réseaux qui s'occupent de ça. Alors, est-ce que la traite est un phénomène particulier au continent africain ? Certainement pas. Est-ce que la traite est liée principalement à la pauvreté ? Pas seulement. Bien sûr, je parlais des trop belles promesses, mais je pense que il y a cette volonté d'aller pour chacun d'entre nous et aussi de la jeunesse ici ou même des moins jeunes d'aller vers quelque chose d'un peu mieux. Alors quelquefois on veut prendre des raccourcis. Alors on se dit voilà, on va organiser un voyage pour vous jusque dans les pays du Golfe. Là-bas vous allez gagner votre vie et vivre dans un palace. Vous serez dans le palace, c'est pas vous qui allez y vivre, vous allez y travailler, vous n'allez pas gagner votre vie, vous n'aurez plus votre passeport, et à un moment donné, vous vous retrouvez dans une situation, en fait, où vous aurez besoin, si vous voulez garder votre liberté, de faire appel à quelqu'un.
Donc parmi les causes, l'ambition, la pauvreté également.
Ça en fait partie, oui. Ce ne sont pas les seuls, il y en a d'autres, on pourra y revenir si vous le désirez, mais allez-y. Je pense qu'on est, on est aussi sur la jeunesse, il y a quand même beaucoup de jeunes, hein, donc, mais hier soir... On a accompagné un groupe de jeunes filles qui rentraient dans son pays à partir du Mali. C'était des très jeunes filles qui sont entre guillemets très malléables dans le sens où on va faire une promesse, on est encore dans l'adolescence et on se dit ben allons-y, on va tenter l'aventure et ça va bien se passer. Donc ça c'était un élément. Le deuxième élément, ben, c'est effectivement les pressions. Là, je pense qu'il faut beaucoup se méfier aussi quelquefois de son entourage proche. Il faut savoir que les questions de traite sont aussi en général quelque part les relais se trouvent de manière très proche des victimes parce que ce sont des gens auxquels on fait confiance qui vont vous dire mais vas-y, pars. Vas-y, ça va bien se passer. Alors ça peut être l'oncle, la tante, ça peut être quelqu'un de la communauté. Quand on est à l'étranger, c'est probablement la personne de votre communauté qui fait partie de la diaspora, qui vous aide à trouver un endroit pour loger et autres, et puis qui va petit à petit vous pousser vers ce qu'on appelle le crime organisé. Je crois que ça, c'est important aussi. Hein. Il faut savoir qu'il y a quelqu'un qui tire les ficelles derrière. Il y a de grands enjeux financiers. Il y a des vraies organisations qui sont des organisations criminelles. Ce qu'on voit en général, ce qui est visible, ce sont les petits relais sur le terrain. Mais ces petits relais sur le terrain, ça peut être n'importe qui, dans les familles, dans les communautés. Eux ne sont qu'un relais, mais ils sont la pointe de l'iceberg de quelque chose de beaucoup plus large. Et je pense que, en tout cas, si on arrive déjà à faire attention, à se dire « oulala, ça ce sont des promesses qui me semblent vraiment trop belles », à recouper ces sources aussi, les sources d'information. On sait qu'elles sont nombreuses, hein. À l'époque des médias sociaux et autres, on peut très bien se retrouver au niveau de Facebook à recevoir toutes sortes d'offres. Mais je pense qu'il faut avoir la capacité de recouper tout ça et de se dire j'y vais ou j'y vais pas. Et si j'y vais, quels sont les contacts que je garde ? Si je vais, je dois absolument informer quelqu'un pour qu'il sache toujours où je suis. Et je dois pouvoir avoir des contacts. Et je crois que ça, c'est important dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la traite. Il est important de mettre en place aussi ce qu'on appelle les systèmes de référencement nationaux. Puisque les victimes de la traite, elles sont en contact avec des associations, avec la justice, avec les services de première ligne. Ça peut être... à l'aéroport, dans un hôtel, ailleurs, les services de bus, que sais-je. Et donc il est important que ces relais-là soient aussi au courant, puissent faire passer le message, et deuxièmement, qu'ils puissent eux aussi relayer. L'idéal, c'est d'avoir des numéros de téléphone nationaux gratuits qui permettent à quelqu'un qui a cette sensation d'être pris dans quelque chose qu'il ne veut pas, qu'il sent quelque part qu'il n'a plus la maîtrise de son avenir ni de sa vie, à ce moment-là, il doit pouvoir appeler quelqu'un.
D'accord. Est-ce que la justice malienne s'intéresse réellement à cette question, à ce phénomène ?
Bien entendu, la justice essaie tant bien que mal à gérer cette question de traite. Mais il faut simplement ressortir la complexité du phénomène de traite. Alors, les magistrats, de façon générale, et les enquêteurs ont reçu des formations basiques. Et la traite des personnes est une des formes de criminalité transnationale organisée, c'est-à-dire que c'est des formes de criminalité très très complexes qui font intervenir beaucoup d'acteurs, qui font intervenir aussi certainement deux ou trois ou plusieurs pays. Alors, la complexité du sujet fait que les résultats souvent ne suivent pas. Or, le protocole dit de prévenir, de réprimer et de punir. Donc, nous sommes aujourd'hui dans la prévention, la sensibilisation à travers les médias. Mais ce que nous essayons de faire, c'est de donner des formations aux enquêteurs aussi bien qu'aux magistrats. Le résultat n'est pas tellement à hauteur de souhait.
Pourquoi ?
Mais ce n'est pas simplement une exception malienne. Même les pays développés, j'ai lu un rapport où même en France, il y a un problème. Il n'y a pas toujours de condamnation à souhait. Donc c'est pour dire que c'est des infractions. Parce que pour qu'il y ait un jugement de condamnation, il faut que le dossier soit bien monté. Il faut que l'enquêteur fasse une bonne procédure. Le procureur qui oriente au niveau du juge d'instruction, qui continue son enquête, qui donne certainement des délégations judiciaires à la police judiciaire pour mener des enquêtes, pour faire des investigations.
D'accord. Dans les cadres, vous remettez en cause le cadre, manque de preuves ou bien
non, mais justement,
le manque d'expérience.
Mais justement, c'est cela dont je veux. Parce qu'il faut excessivement travailler sur cette formation technique. Il y a des formes d'enquête qui ne sont pas tellement accessibles à nos magistrats. Et malheureusement, le confort pour certains fait que les enquêtes souvent n'aboutissent pas parce que chaque fois qu'il y a un obstacle, si vous n'êtes pas très engagé, vous pouvez vous lasser et laisser l'enquête. Et c'est ce qui fait que souvent, ces dossiers arrivent au niveau de la cour d'assises parce que jusqu'à présent, nous, on est à ce niveau-là. Et avec des assesseurs, on banalise parce que la justice, parce que c'est la justice au niveau de la cour d'assises, c'est trois magistrats professionnels et quatre assesseurs. Alors, vous voyez que dans la délibération, la messe est dite, parce que quatre civils, quatre citoyens qui viennent aider les juges professionnels à faire un travail, ils n'ont pas tous les éléments pour comprendre. Vous imaginez quand un maître marabout qui est poursuivi, par exemple, pour traiter des personnes par rapport, parce qu'il faut parler de ça, la problématique des enfants talibés. C'est vrai qu'il y a des marabouts qui font leur travail, mais il y a aussi d'autres qui viennent, qui partent, qui sont au Mali, qui partent dans les villages pour chercher des enfants et les mettent dans la rue. C'est valable pour d'autres aussi qui quittent d'autres pays, pour ne citer que le Burkina ou bien le Sénégal ou bien la Guinée, qui amènent des enfants et les enfants, au lieu de les enseigner, comme des maîtres coraniques, on les met dans la rue.
Mais dans la rue, pourquoi ?
Dans la rue, pour aller mendier. Mais quand ils tombent là-dedans, les enquêteurs peuvent les prendre et ils tombent dans la traite. Et vous imaginez un juge qui... cet enquêteur qui est convaincu qu'il y a de la traite, ce procureur qui est convaincu qu'il y a de la traite, ce juge d'instruction qui essaie de faire son travail, mais arrivé au niveau de la cour d'assises avec quatre citoyens qui a une autre compréhension du marabout, il va dire que... Ça ne va pas. Le Mali est en train d'aller dans une direction qui n'est pas ce que nous souhaitons. Et du coup, souvent, tout ce travail tombe à l'eau. Alors que c'est des vrais. Moi, je les mets au même niveau que, par exemple, un trafiquant d'un pays qui amène des jeunes filles pour les mettre dans la prostitution ici. Je mets ces mêmes marabouts dans le même panier. Ils sont tous des trafiquants. Il faut savoir séparer les bonnes graines de l'ivraie. Tant qu'on ne fait pas ça, ces gens-là vont continuer.
Et tenez-vous, comment avancer dans la lutte si certains acteurs banalisent?
Mais justement, il faut continuer la sensibilisation. Et on est là-dessus. C'est ce que l'OIM fait, c'est ce que d'autres structures font. Mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Parce que Vous savez, vous qui êtes homme de médias, vous savez que les mêmes marabouts, ils ont accès à vos radios. Ils font leur communication. Donc, ce n'est pas facile. Mais le message qui est important pour nous à passer, c'est que parmi ces marabouts, il y a des trafiquants. Et que ça ne sert absolument rien, sinon nuisiblement pour les enfants, que de ne pas dénoncer ces marabouts, que de ne pas se séparer de ces marabouts, et de les laisser et de laisser la justice faire son travail.
Quel est l'impact de la traite des personnes sur les êtres humains et sur la société malienne même, Madame Diawara?
Bon, moi je pense que cette question-là, elle est très importante, parce que nos enfants qui en souffrent, nous savons. Bon, avant d'aller dans ça, j'ai un exemple concret que je vais donner.
Allez-y.
Parce que nous avons eu une fille du Mali qui a fait la santé. Et elle était amie avec un homme qui était bien aisé. C'est un réseau bien fait, hein. C'est un réseau qui existe. Qui l'a encouragée à dire « J'étais trouvé du travail dans une clinique » au Maroc. Je veux que tu ailles travailler là-bas. Et ce qu'il a fait, il a aidé la fille à terminer ses études. Donc la fille a eu son diplôme. Il lui a donné, fait le visa, tout, il a tout fait. Et maintenant, cette fille arrivée au Maroc, elle était utilisée comme bonne dans une famille marocaine. Arrivée, la première chose qu'on lui a dit, tu es venue comme bonne. Les mèches là, tu l'enlèves. Et elle couchait dans une toilette. Elle faisait tout dans la famille. Alors, la fille a dit, bon, moi j'étais venue pour travailler dans une clinique. La femme a dit, j'étais achetée. J'étais payée. Tu n'es pas venu pour travailler, tu es venu pour moi. Et tu fais ce que je te dis. Cette fille-là, et pourtant, elle a écrit dans les journaux, elle a passé dans les radios, elle a passé à l'APDF, on l'a écoutée plusieurs fois.
À son retour.
À son retour. Parce qu'elle a pu se sauver comment? Parce qu'un jour, lorsque les patrons sont sortis, parce qu'elle bouclait la porte et donnait la clé aux enfants pour qu'elle ne sorte pas. Ce jour-là, elle a pu tromper la conscience des enfants pour ouvrir la porte. Et elle est sortie. Elle dit, aujourd'hui, je meurs ou bien je rentre au Mali. Elle est décidée à partir. Donc, lorsque les patrons sont venus, ils ont dit qu'il faut qu'elle rentre. Elle a carrément refusé. Donc, elle avait un numéro. Elle a appelé à l'ambassade. De l'ambassade, on est venu la chercher. Donc, elle est venue, elle a crié sur tous les toits. On a tout fait. Il n'y a pas eu de solution. Mais c'est quand même un réseau parce qu'elle n'était pas la première personne. Et puis, c'est des responsables, si je peux me le permettre, qui l'ont envoyé pour qu'elle aille travailler. Donc, il y a beaucoup de cas comme ça qui existent. Je crois que l'OEM même a nous envoyé une fille qui aussi avait été pour travailler parce que son papa lui a accepté un cas de mariage forcé, elle ne voulait pas se marier. Donc, elle a eu quelqu'un qui dit, bon, moi, je vais t'envoyer en Algérie ou bien au Maroc. Comme ça, tu vas aller travailler. Donc, elle est allée là-bas chez un premier patron. Elle n'a pas pu rester. Ils l'ont mis à la porte. Elle est allée chez une deuxième. Finalement, elle aussi, elle a pris la fuite pour venir au Mali. C'est l'OIM qui nous a refusé cette fille. On a pu faire la médiation pour l'intégrer dans sa famille parce que la dernière famille où elle était, c'était des chrétiens. Et le papa dit, tant qu'elle est chrétienne, elle ne rentre pas dans sa famille. Il faut qu'elle se reconvertisse là-bas. Donc, on a eu ce cas aussi. On a fait la médiation. Finalement, la fille est rentrée chez elle. Donc, pour vous dire que si vous dites les causes réelles au Mali et les conséquences, pour moi, les causes, c'est aussi le manque d'emploi des jeunes. Quand il n'y a pas d'emploi, les jeunes sont tentés de faire beaucoup de choses. Ensuite, il faut dire aussi qu'il y a la paresse, l'inconscience des enfants. Parce que tout le monde veut être dans un bureau. Il n'y a pas de saut métier pour moi. au lieu d'aller souffrir à l'extérieur ou bien quelque part où tu ne connais pas, vaut mieux ce que tu fais à l'extérieur, balayer la
rue. Justement, est-ce que c'est une question de bureau, d'emploi? Parce que certains qui vont faire le même travail qu'ils refusent dans leur pays, selon
les
observateurs.
Donc, c'est pour dire que la paresse aussi fait que les jeunes croient que je ne dois pas faire ça ici, mais quand je vais là-bas, je vais gagner des millions. Donc, ils ont la tentation du mieux-être. Donc, c'est pourquoi ils vont à l'extérieur, croyant que là-bas, ils vont gagner plus. Alors qu'ils sont trompés, parce qu'on les amène, c'est pas la condition sine qua non que pour dire que je vais travailler, non.
D'accord,
on les emploie à d'autres faits.
Monsieur Reissien était en train de parler des mécanismes de prévention, de protection. Aujourd'hui, est-ce que les réponses sont coordonnées au Mali pour lutter contre la traite des personnes?
Écoutez, j'ai en face de moi le président du comité de coordination de lutte contre la traite. On est en contact régulier. Et à notre niveau, on est au service, on est là pour quelque part aider au renforcement des capacités. Donc ça, c'est un message que je donne ici. J'ai parlé là tout de suite d'un système national de référencement. En fait, il y a eu un accompagnement qui a permis le développement pour l'instant sur papier de ce système de référencement. Je crois qu'il demande à être opérationnalisé encore plus, encore mieux et probablement avec un plus grand nombre de personnes puisque, je le répète, les questions de traite sont tout à fait transversales. Donc on peut se retrouver dans des situations d'exploitation, quel que soit le type de secteur dans lequel on se trouve. Donc je pense que la traite demande une approche multi-département, qu'elle demande aussi d'un point de vue de la société de pouvoir toucher toutes les différentes couches de la société. Je trouvais que c'était intéressant les discussions sur d'un côté l'esclavage, de l'autre côté la servitude, la servitude internationale vis-à-vis de la servitude nationale. Enfin, il y a toutes sortes de débats qui sont intéressants et je pense qu'ils ont lieu d'être. Ils sont nécessaires parce qu'ils ils permettent la parole, ils permettent l'échange d'idées et de là ils permettent aussi de se rendre compte que finalement peut-être que certains des éléments ne sont pas si éloignés les uns des autres. Comment veut-on réagir à cela ensemble en tant que société, tout en garantissant l'intégrité culturelle, religieuse et autres d'une société. Je pense que c'est important aussi. Très souvent, les textes internationaux auxquels on se réfère, au niveau de certaines composantes de la société, on a l'impression que ce sont des textes qui sont imposés. La réalité des textes internationaux, et corrigez-moi si je dis des bêtises, mais en général, ce sont les standards minimums, en fait. Donc les textes internationaux vont en général moins loin que ce que différentes parties qui étaient autour de la table voulaient aller, justement pour permettre d'être adopté, pour permettre d'être une référence qui doit pouvoir justement permettre, un, le débat, deux, les avancées en termes d'échanges sur les politiques en la matière, et trois, la traduction dans la législation, et puis surtout, l'opérationnalisation sur le terrain. Je pense que ça, c'est vraiment une clé de se dire, madame a rappelé la personne qui était au Maroc, qui a trouvé un numéro de téléphone, qui était le bon numéro de téléphone. Alors, ça peut paraître simpliste, un numéro unique où on peut appeler et où on est sûr qu'on a quelqu'un de l'autre côté qui vous répond et qui vous donne les bonnes informations, c'est une clé. Un autre numéro unique le même numéro mais où vous pouvez avoir des informations pour vous-même vous ressentir en tant que victime et vous sentir aussi protégé. Je pense que c'est important. On a parlé de la question des poursuites sous l'angle de l'investigation qui est compliqué, mais il y a aussi l'angle du témoignage qui est très très compliqué. Aller dire à quelqu'un qui était à l'étranger dans une situation d'exploitation sexuelle, avant de rentrer dans ta famille, tu vas quelque part témoigner contre les gens, tu vas devoir dire quoi? Que tu étais prostituée, que tu n'avais pas envie, mais qu'on t'a forcé. Comment regagner quelque part son intégrité, comment faire face à la honte, tout ça sont des éléments qui sont très très complexes. Donc je réponds peut-être un peu longuement, mais je crois vraiment, et c'est ça que j'aimerais moi mettre en avant, c'est que la question de la traite, elle touche à toutes les composantes d'une société, elle est présente partout et elle demande très clairement de la part des personnes qui organisent un État, une société, une communauté, des échanges entre toutes les parties afin de pouvoir avoir une compréhension commune de la question.
D'accord. Alors au Mali, il y a le plan d'action national de lutte contre la traite des personnes 2018-2022 qui prévoit la prévention de la traite des personnes. Mais comment ?
Mais, entre autres, cette émission toucher les acteurs qui sont sur le terrain. Je vous dis une chose. Hein. Et la problématique de la traite des personnes, elle doit être prise au sérieux. Au niveau mondial, les Nations Unies font des classements des pays. Mais on est aussi buté à un autre classement, le classement des Américains. C'est-à-dire que les Américains, les États-Unis, font un classement. Le classement dans le classement, et on voit séquence par séquence comment l'État fait pour lutter contre la traite des personnes. Et je vois une chose, par exemple, nous, en 2019, on était sortis de la zone rouge. On était dans une catégorie D, parce qu'il y a trois catégories, il y a une catégorie d'attente. Mais cette année, on est retombé. Pourquoi ? On est retombé parce qu'il y a la problématique des enfants, les enfants soldats. On banalise ces phénomènes. Vous imaginez un enfant, les enfants de rue. Aujourd'hui, ils sont très jeunes, ils sont dans la rue, ils mendient pour des maîtres coraniques ou bien des maîtres quelconques. Et demain, ces enfants, avec l'adolescence, c'est des enfants qui fuient et ils sont récupérés par les terroristes. Et ils sont utilisés comme enfants soldats. Ils sont utilisés comme des boucliers humains. Vous voyez que de traite des personnes seulement, l'enfant va aller grossir le lot des terroristes.
D'accord. Il nous reste trois minutes, une minute pour chaque invité. Non, aujourd'hui, par rapport aux responsabilités, société civile, population, autorité, partenaires du Mali, qui doit faire quoi pour prévenir ce phénomène ?
Ça incombe d'abord à l'État. C'est à l'État de mener une vraie lutte, n'est-ce pas ? Et les autres ne font que l'accompagner. Vous comprenez ?
D'accord. Voilà. Alors, à vous, Madame Diawara.
Bon, nous, dans la prévention, je crois que nous sommes en train de travailler avec Mali Justice Projet Tchéki, le projet Tchéki, à travers la formation des parajuristes. Donc, comme je vous ai dit, nous sommes dans le cercle de Yélemané avec le projet Tchéki. Donc, on a formé des parajuristes qui sont en train quand même de sensibiliser et d'informer la population sur les causes et puis les conséquences de la traite des personnes. Parce que vous savez, c'est des solidarités, ils aiment beaucoup.
Est-ce que ça marche ? Est-ce que le message est entendu et compris ?
Bon, on est en train de faire de notre mieux parce que si vous voyez qu'il y a eu déclaration pour les esclavages, etc., c'est qu'ils ont pris conscience de quelque chose.
D'accord. Pascal, quel appel avez-vous à lancer aux différents acteurs pour que la lutte contre la traite des personnes puisse être une réussite au même ?
Moi, j'ai un appel qui est relativement simple. C'est l'appel à la responsabilité individuelle de chacun. Je pense que ça, c'est vraiment une clé. Donc, on a un panel ici avec des gens des associations, des gens de la justice, une organisation internationale. Il y a beaucoup d'autres acteurs. Et je crois que la prévention, elle va passer par la sensibilisation, non seulement auprès des victimes potentielles, mais aussi de toutes les personnes qui sont autour d'elles. En ce compris les parents, en ce compris les amis, en ce compris la communauté. Et si j'ai juste un message à donner, c'est si la promesse est trop belle, c'est que que c'est une fausse promesse. Ça n'existe pas, les contes de fées.
Les promesses Merci. Trop belles sont de fausses promesses, c'est voilà. Le terme. Alors, merci Pascal Reitjens, chef de mission OIM au Mali, Boubacar Touré, président du Comité national de lutte contre la traite des personnes, et Madame Diawara Bintou Koulibaly, présidente de l'Association pour le progrès et la défense des femmes maliennes APDF. À la régie vidéo et audio, il y avait Nouhoum Djiré et Gagné Kanté. Je suis Mohamedou Touré, on se retrouve demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani Wamakara. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Haloud Mangi.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.